Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous poursuivons notre lecture du livre de Maurice Leblanc, Arsène Lupin, L'aiguille creuse. Lors de notre dernière lecture, Botrelet a réussi à trouver l'aiguille creuse où Arsène Lupin a sans doute son quartier général. Botrelet a donc fait appel à Ganimard, le représentant de la loi, pour aller ensemble explorer les lieux. Botrelet, Ganimard et ses hommes ont monté étage par étage dans l'aiguille creuse en suivant un escalier unique d'abord, puis à un certain étage, ce sont trois escaliers qui montent à l'étage supérieur. Décision est prise, Ganimard et ses hommes restent là et Botrelet seul, prenant un escalier au hasard, va en éclaireur reconnaître les lieux. Mais après quelques étages, une surprise l'attend. Je reprends la lecture de quelques lignes pour vous expliquer cela. Voici ce qui est dit dans les dernières pages. Au milieu de la pièce, une table richement servie avec une nappe en dentelle, des compotiers de fruits et de gâteaux, du champagne en carafe et des fleurs, des amoncellements de fleurs. Autour de la table, trois couverts. Botrelet s'approche. Sur les serviettes, il y avait des cartes avec le nom des convives. Il lut d'abord Arsène Lupin, en face Madame Arsène Lupin. Il prit la troisième carte et tressauta d'étonnement. Celle-là portait son nom, Isidore Botrelet. Jusqu'à la fin, cette fois, c'est quelque chose qui le tracasse réellement. Que va-t-il faire ? Je lis. Le trésor des rois de France. Un rideau s'écarta. Bonjour, mon cher Botrelet. Vous êtes un peu en retard. Le déjeuner était fixé à midi. Mais enfin, à quelques minutes près. Qu'y a-t-il donc ? Vous ne me reconnaissez pas ? Je suis donc si changée ? Au cours de sa lutte contre Lupin, Botrelet avait connu bien des surprises. Et il s'attendait encore à l'heure du dénouement à passer par bien d'autres émotions. Mais le choc, cette fois, fut imprévu. Ce n'était pas de l'étonnement, mais de la stupeur, de l'épouvante. L'homme qu'il avait en face de lui, l'homme que toute la force brutale des événements l'obligeait à considérer comme Arsène Lupin, cet homme, c'était Valméras. Valméras, le propriétaire du château de l'Aiguille. Valméras, celui-là même auquel il avait demandé secours contre Arsène Lupin. Valméras, son compagnon d'expédition à Crozant. Valméras, le courageux ami qui avait rendu possible l'évasion de Raymond en frappant et en affectant de frapper dans l'ombre du vestibule un complice de Lupin. Vous ? Vous ? C'est donc vous ? Balbutia-t-il. Et pourquoi pas ? S'écria Lupin. Pensiez-vous donc me connaître définitivement ? Parce que vous m'avez vu sous les traits d'un clergyman ou sous l'apparence de M. Massiban. Hélas, quand on a choisi la situation sociale que j'occupe, il faut bien se servir de ses petits talents de société. Si Lupin ne pouvait être à sa guise, pasteur de l'Église réformée et membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, ce serait à désespérer d'être Lupin. Or, Lupin, le vrai Lupin Botrelet, le voici. Regarde de tous tes yeux, Botrelet. Mais alors, si c'est vous, alors, mademoiselle, eh oui, Botrelet, tu l'as dit. Il écarta de nouveau la tenture, fit un signe et annonça Madame Arsène Lupin. Ah ! Murmura le jeune homme malgré tout confondu. Mademoiselle de Saint-Véran ? Non, non, protesta Lupin. Madame Arsène Lupin, ou plutôt, si vous préférez, Madame Louis Valméras, mon épouse en juste noces, selon les formes légales les plus rigoureuses. Et grâce à vous, mon cher Bottrelé. Il lui tendit la main. Tous mes remerciements, et de votre part, je l'espère, sans rancune. Chose bizarre. Bottrelé n'en éprouvait point. Point de rancune. Aucun sentiment d'humiliation. Nulle amertume. Il subissait si fortement l'énorme supériorité de son adversaire qu'il ne rougissait pas d'avoir été vaincu par lui. Il serra la main qu'on lui tendait. « Madame est servie !» Un domestique avait déposé sur la table un plateau chargé de mets. « Vous nous excuserez, Bottrelé. Mon chef est en congé et nous serons contraints de manger froid. » Bottrelé n'avait guère envie de manger. Il s'assit cependant prodigieusement intéressé par l'attitude de Lupin. Que savait-il au juste? Se rendait-il compte du danger qu'il courait? Ignorait-il la présence de Ganimard et de ses hommes? Et Lupin continuait. « Oui, grâce à vous, mon cher ami. Certainement, Raymond et moi, nous nous sommes aimés le premier jour. Parfaitement, mon petit. L'enlèvement de Raymond, de sa captivité, des blagues, tout cela, nous nous aimions. Mais elle, pas plus que moi, d'ailleurs. Quand nous fûmes libres de nous aimer, nous n'avons pu admettre qu'il s'établit entre nous un de ces liens passagers qui sont à la merci du hasard. La situation était donc insoluble pour Lupin, mais elle ne l'était pas si je redevenais le Louis Valméras que je n'ai pas cessé d'être depuis le jour de mon enfance. C'est alors que j'eus l'idée, puisque vous ne lâchiez pas prise, et que vous aviez trouvé ce château de l'Aiguille, de profiter de votre obstination. Et de ma niaiserie, bah, qui ne s'y fut laissé prendre. De sorte que c'est sous mon couvert et avec mon appui que vous avez pu réussir? Parbleu, comment aurait-on soupçonné Valméras d'être Lupin, puisque Valméras était l'ami de Bottrelé et que Valméras venait d'arracher à Lupin celle que Lupin aimait? Et ce fut charmant. Oh, les jolis souvenirs! L'expédition à Crozant, les bouquets de fleurs trouvés, ma soi-disant lettre d'amour à Raymond, et plus tard, les précautions que moi, Valméras, j'eus à prendre contre moi, Lupin, avant mon mariage. Et le soir de votre fameux banquet, quand vous défaillîtes entre mes bras, les jolis souvenirs. Il y eut un silence. Bottrelé observa Raymond. Elle écoutait Lupin sans mot dire et elle le regardait avec des yeux où il y avait de l'amour, de la passion et autre chose aussi que le jeune homme n'aurait pu définir. Une sorte de gêne inquiète et comme une tristesse confuse. Mais Lupin tourna les yeux vers elle et elle lui sourit tendrement. À travers la table, leurs mains se joignirent. « Que dis-tu de ma petite installation, Bottrelé ?» s'écria Lupin. « De l'allure, n'est-ce pas ? Je ne prétends point que ce soit du dernier confortable. Cependant, quelques-uns s'en sont contentés, non des moindres. Regarde, regarde la liste de quelques personnes qui furent les propriétaires de l'aiguille et qui tinrent à l'honneur d'y laisser la marque de leur passage. Sur les murs, les uns au-dessous des autres, ces mots étaient gravés. César, Charlemagne, Roll, Guillaume le Conquérant, Richard, roi d'Angleterre, Louis le XIe, François Ier, Henri IV, Louis XIV, Arsène Lupin. « Qui s'inscrira désormais ? » reprit-il. Hélas, la liste est close. De César à Lupin, et puis c'est tout. Bientôt, ce sera la foule anonyme qui viendra visiter l'étrange citadelle et dire que, sans Lupin, tout cela restait à jamais inconnu des hommes. Ah, Bottrelé, le jour où j'ai mis le pied sur ce sol abandonné, quelle sensation d'orgueil! Retrouver le secret perdu, en devenir le maître, le seul maître, hériter d'un pareil héritage, après tant de rois, habiter l'aiguille. Un geste de sa femme l'interrompit. Elle paraissait très agitée. « Du bruit !» dit-elle. « Du bruit en dessous de nous, vous entendez ?»« C'est le clapotement de l'eau !» fit Lupin. « mais non, le bruit des vagues, je le connais, c'est autre chose !»« Que voulez-vous que ce soit, ma chère amie ?» dit Lupin en riant. « Je n'ai invité que Bottrelé à déjeuner !» Et s'adressant au domestique, « Charolais, tu as fermé les portes des escaliers derrière monsieur ?»« Oui, et j'ai mis les verrous. » Lupin se leva. « Allons, Raymonde, ne tremblez pas ainsi. Ah, mais vous êtes toute pâle !» Il lui dit quelques mots à voix basse, ainsi qu'au domestique, souleva le rideau et les fit sortir tous deux. En bas, le bruit se précisait. C'était des coups sourds qui se répétaient à intervalles égaux. Bottrelé pensa « Ganimard a perdu patience et il brise les portes. » Très calme et comme si véritablement il n'eût pas entendu, Lupin reprit. Par exemple, rudement endommagée, l'aiguille, quand j'ai réussi à la découvrir, on voyait bien que nul n'avait possédé le secret depuis un siècle, depuis Louis XVI et la Révolution. Le tunnel mena ses ruines, les escaliers s'effritaient, l'eau coulait à l'intérieur, il m'a fallu étayer, consolider, reconstruire. Bottrelé ne put s'empêcher de dire « À votre arrivée, était-ce vide ?»« À peu près. Les rois n'ont pas dû utiliser l'aiguille ainsi que je l'ai fait comme entrepôt. » « Comme refuge, alors ?»« Oui, sans doute. Au temps des invasions, au temps des guerres civiles également. Mais sa véritable destination, ce fut d'être, comment dirais-je, le coffre-fort des rois de France. » Les coups redoublaient, moins sourds maintenant. Ganimard avait dû briser la première porte et il s'attaquait à la seconde. Un silence, puis d'autres coups plus rapprochés encore. C'était la troisième porte. Il en restait deux. Par une des fenêtres, Bottrelé aperçut les barques qui cinglaient autour de l'aiguille. Et non loin, flottant comme un gros poisson noir, le torpilleur. « Quel vacarme !» s'exclama Lupin. « On ne s'entend pas !»« Montons, veux-tu ? Peut-être cela t'intéressera-t-il de visiter l'aiguille ?» Ils passèrent à l'étage au-dessus, lequel était défendu comme les autres par une porte que Lupin referma derrière lui. « Ma galerie de tableaux, dit-il. Les murs étaient couverts de toiles, où Bottrelé lui lut aussitôt des signatures les plus illustres. Il y avait la Vierge à l'Anus Dei de Raphaël, le portrait de Lucrezia Fede, d'André del Sarto, la Salomé de Titien, la Vierge et les Anges de Botticelli, des Tintoret, des Carpaccio, des Rembrandt, des Velasquez. De belles copies, approuva Bottrelé. Lupin le regarda d'un air stupéfait. Quoi ? Des copies ? Mais es-tu fou ? Les copies sont à Madrid, mon cher, à Florence, à Venise, à Munich, à Amsterdam. Alors ça ? Les toiles originales, collectionnées avec patience dans tous les musées d'Europe, où je les ai remplacées honnêtement par d'excellentes copies. Mais un jour ou l'autre, la fraude sera découverte. Eh bien, l'on trouvera ma signature sur chacune des toiles par derrière et l'on saura que c'est moi qui ai doté mon pays de chefs-d'œuvre originaux. Après tout, je n'ai fait que ce qu'a fait Napoléon en Italie. Ah tiens, Botrelet, voici les 4 Rubens de Monsieur de Gesvres. Les coups ne discontinuaient pas au creux de l'aiguille. « Ce n'est plus tenable, dit Lupin. Montons encore. » Un nouvel escalier, une nouvelle porte, la salle des tapisseries, annonça Lupin. Elle n'était pas suspendue, mais roulée, ficelée, étiquetée et mêlée d'ailleurs avec des paquets d'étoffes anciennes que Lupin déplia. Brocart merveilleux, velours admirable, soie souple au ton fané, chasuble, tissu d'or et d'argent. Ils montèrent encore et Botrelet vit la salle des horloges et des pendules. La salle des livres, oh, les magnifiques reliures et les volumes précieux introuvables, uniques exemplaires dérobés aux grandes bibliothèques. La salle des dentelles, la salle des bibelots. Et chaque fois, le cercle de la salle diminuait. Et chaque fois maintenant, le bruit des coups s'éloignait. Ganimard perdait du terrain. « La dernière, » dit Lupin, « la salle du trésor. » Celle-ci était toute différente. Ronde aussi, mais très haute, de forme conique. Elle occupait le sommet de l'édifice. Et sa base devait se trouver à 15 ou 20 mètres de la pointe extrême de l'aiguille. Du côté de la falaise, point de lucarne. Mais du côté de la mer, comme nul regard indiscret n'était à craindre, deux baies vitrées s'ouvraient par où la lumière entrait abondamment. Le sol était couvert d'un plancher de bois rare à dessins concentriques. Contre les murs, des vitrines et quelques tableaux. Les perles de ma collection, dit Lupin. Tout ce que tu as vu jusque-là est à vendre. Des objets s'en vont, d'autres arrivent. C'est le métier. Ici, dans ce sanctuaire, tout est sacré. Rien que du choix de l'essentiel, le meilleur du meilleur, de l'inappréciable. Regarde. Ses bijoux, Botrelet, amulettes, chaldéennes, colliers égyptiens, bracelets celtiques, chaînes arabes. Regarde ces statuettes, Botrelet. Cette Vénus grecque, cet Apollon de Corinthe. Regarde ces Tanagras, Botrelet. Tous les vrais Tanagras sont ici. Hors de cette vitrine, il n'y en a pas un seul au monde qui soit authentique. Quelle jouissance de se dire cela! Botrelet, tu te rappelles les pilleurs d'église dans le Midi, la bande de Thomas et compagnie? Des agents à moi, soit dit en passant. Eh bien, voici la chasse d'Ambazac, la véritable, Botrelet. Tu te rappelles le scandale du Louvre? La tiare reconnue fausse, imaginée, fabriquée par un artiste moderne. Voici la tiare de Saïta Farnès. La véritable Botrelet. Regarde, regarde bien, Botrelet. Voici la merveille des merveilles. L'œuvre suprême, la pensée d'un dieu. Voici la Joconde de Vinci. La véritable. À genoux, Botrelet. Toute la femme est devant toi. Un long silence entre eux.
Thank you.
coup se rapprocher. Deux ou trois portes, pas davantage, les séparaient de Ganimard. Au large, on apercevait le dos noir du torpilleur et les barques qui croisaient. Le jeune homme demanda « Et le trésor ?»« Ah, petit, c'est cela surtout qui t'intéresse. » Tous ces chefs-d'œuvre de l'art humain, n'est-ce pas? Ça ne vaut pas pour ta curiosité la contemplation du trésor. Et toute la foule sera comme toi. Allons, sois satisfait. Il frappa violemment du pied, fit ainsi basculer un des disques qui composait le parquet, et le soulevant comme le couvercle d'une boîte, il découvrit une sorte de cuve, toute ronde, creusée à même le roc. Elle était vide. Un peu plus loin, il exécuta la même manœuvre. Une autre cuve apparut, vide également. Trois fois encore, il recommença. Les trois autres cuves étaient vides. Hé hé, ricana Lupin, quelle déception! Sous Louis XI, sous Henri IV, sous Richelieu, les cinq cuves devaient être pleines. Mais pense donc à Louis XIV, à la folie de Versailles, aux guerres, aux grands désastres du règne. Et pense à Louis XV, le roi prodigue Pompadour, la du Barry, ce qu'on a dû puiser alors. Avec quels ongles crochus on eût dû gratter la terre. Tu vois, plus rien. Il s'arrêta. Si, Botrelet, quelque chose encore. La sixième cachette. Intangible, celle-là. Nul d'entre eux n'osa jamais y toucher. C'était la ressource suprême. Disons le mot, la poire pour la soif. Regarde, Botrelet. Il se baissa et souleva le couvercle. Un coffret de fer emplissait la cuve. Lupin sortit de sa poche une clé à gorge et à rainure compliquée, et il ouvrit. Ce fut un éblouissement. Toutes les pierres précieuses étincelaient, toutes les couleurs flamboyaient, l'azur des saphirs, le feu des rubis, le vert des émeraudes, le soleil des topazes. Regarde, regarde, petit Botrelet, ils ont dévoré toute la monnaie d'or, toute la monnaie d'argent, tous les écus et tous les ducats et tous les doublons. Mais le coffre des pierres précieuses est intact. Regarde les montures. Il y en a de toutes les époques, de tous les siècles, de tous les pays. Les dots des reines sont là. Chacune apporta sa part. Marguerite d'Écosse et Charlotte de Savoie, Marie d'Angleterre et Catherine de Médicis, et toutes les archiduchesses d'Autriche, Éléonore, Élisabeth, Marie-Thérèse, Marie-Antoinette. Regarde ces perles, Botrelet, et ces diamants, l'énormité de ces diamants, aucun d'eux qui ne soit digne d'une impératrice. Le régent de France n'est pas plus beau. Il se releva et tendit la main en signe de serment. Botrelet, tu diras à l'univers que Lupin n'a pas pris une seule des pierres qui se trouvaient dans le coffre royal. Pas une seule, je le jure, sur l'honneur, je n'en avais pas le droit. C'était la fortune de la France. En bas, Ganimard se hâtait. À la répercussion des coups, il était facile de juger que l'on attaquait l'avant-dernière porte, celle qui donnait accès à la salle des bibelots. Laissons le coffre ouvert, dit Lupin, et toutes les cuves aussi, tous ces petits sépulcres vides. Il fit le tour de la pièce, examina certaines vitrines, contempla certains tableaux et se promenant d'un air pensif. « Comme c'est triste de quitter tout cela! Quel déchirement! Mes plus belles heures, je les ai passées ici, seules, en face des objets que j'aimais. Et mes yeux ne les verront plus, et mes mains ne les toucheront plus. » Il y avait sur son visage contracté une telle expression de lassitude que Botrelet en éprouva une pitié confuse. La douleur chez cet homme devait prendre des proportions plus grandes que chez un autre, de même que la joie, de même que l'orgueil ou l'humiliation. Près de la fenêtre maintenant, et le doigt tendu vers l'horizon, il disait « Ce qui est triste encore, c'est cela, tout cela qu'il me faut abandonner. Est-ce beau, la mer immense, le ciel, à droite et à gauche les falaises d'Etretat, avec leurs trois portes, la porte d'amont, la porte d'aval, la manne-porte, autant d'arcs de triomphe pour le maître. Et le maître, c'était moi, roi de l'aventure, roi de l'aiguille creuse, royaume étrange et surnaturel, de César à Lupin, quelle destinée !» Il éclata de rire. « Roi de féerie, et pourquoi cela ? Disons tout de suite roi d'Yvetot, quelle blague ! Roi du monde, oui, voilà la vérité. De cette pointe d'aiguille, je dominais l'univers. Je le tenais dans mes griffes comme une proie. Soulève la tiare de Saïta Farnès, Botrelet. Tu vois ce double appareil téléphonique ? À droite, c'est la communication avec Paris, ligne spéciale. À gauche, avec Londres, ligne spéciale. Par Londres, j'ai l'Amérique, j'ai l'Asie, j'ai l'Australie. Dans tous ces pays, des comptoirs, des agents de vente, des rabatteurs, des indicateurs, c'est le trafic international. C'est le grand marché de l'art et de l'antiquité, la foire du monde. Ah, Botrelet, il y a des moments où ma puissance me tourne la tête. Je suis ivre de force et d'autorité. La porte en dessous céda. On entendit Ganimard et ses hommes qui couraient et qui cherchaient. Après un instant, Lupin reprit à voix basse. Et voilà, c'est fini. Une petite fille a passé qui a des cheveux blonds, de beaux yeux tristes et une âme honnête, oui, honnête. Et c'est fini. Moi-même, je démolis le formidable édifice. Tout le reste me paraît absurde et puéril. Il n'y a plus que ses cheveux qui comptent, ses yeux tristes et sa petite âme honnête. Les hommes montaient l'escalier. Un coup ébranla la porte, la dernière. Lupin empoigna brusquement le bras du jeune homme. « Ah, canaille en plein cœur, t'as donc pris des leçons ?» Fichu le roi mage, en plein cœur, fracassé comme une pipe à la foire. « Rends-toi, Lupin !» hurla Ganimard, dont le revolver surgissait hors du panneau brisé et dont on apercevait les yeux brillants. « Rends-toi, Lupin !»« Et la garde, est-ce qu'elle se rend ?» dit Lupin. « Si tu bouges, je te brûle. »« Allons donc, tu ne peux pas m'avoir d'ici !» De fait, Lupin s'était éloigné, et si Ganimard, par la brèche pratiquée dans la porte, pouvait tirer droit devant lui, il ne pouvait tirer ni surtout viser du côté où se trouvait Lupin. La situation de celui-ci n'en était pas moins terrible, puisque l'issue sur laquelle il comptait, la petite porte du triptyque, s'ouvrait en face de Ganimard. Essayer de s'enfuir, c'était s'exposer au feu du policier, et il restait 5 balles dans le revolver. Fichtre, dit-il en riant, mes actions sont en baisse. C'est bien fait, mon vieux Lupin. T'as voulu avoir une dernière sensation et t'as trop tiré sur la corde. Fallait pas t'en bavarder. Il s'aplatit contre le mur. Sous l'effort des hommes, un pan du panneau encore avait cédé. Et Ganimard était plus à l'aise. 3 mètres, pas davantage, séparaient les deux adversaires. Mais une vitrine en bois doré protégeait Lupin. « À moi donc, Botrelet !» s'écria le vieux policier qui grinçait de rage. « Tire ! Tire donc dessus au lieu de reluquer comme ça !» Isidore, en effet, n'avait pas remué. Spectateur passionné, mais indécis jusque-là. De toutes ses forces, il eût voulu se mêler à la lutte et abattre la proie qu'il tenait à sa merci. Mais un sentiment obscur l'en empêchait. L'appel de Ganimard le secoua, sa main se crispa à la crosse du revolver. Si je prends parti, pensa-t-il, Lupin est perdu. Et j'en ai le droit, c'est mon devoir. Pour terminer l'épisode, nous sommes toujours dans l'aiguille creuse. Galimard et ses hommes, en quelque sorte, abandonnés pour un temps par Beautrelet, attendent de suivre le même chemin qu'il a suivi pour arriver comme lui et pour voir Arsène Lupin réellement. Pendant ce temps, justement, Beautrelet est réellement l'invité de M. et Mme Lupin. Et comme de coutume, Lupin fait étalage de sa vie, en particulier ici, dans l'aiguille creuse. Il la lui fait visiter et il présente aussi son épouse que Beautrelet reconnaît. Il s'agit de Mademoiselle de Saint-Véran. Lupin est fou amoureux, mais pour le moment, Raymonde est inquiète à cause des bruits qu'elle entend. Pendant tout ce temps, Galimard a progressé et il est maintenant derrière la porte de cette salle à manger où se trouvent Arsène Lupin, son épouse Raymonde et un serviteur, ainsi que Beautrelet. Qui des trois, Arsène Lupin, Galimard ou Beautrelet, aura le dernier mot? Vous le saurez lors du dernier épisode d'Arsène Lupin. L'aiguille creuse, écrit par Maurice Leblanc. Mais n'oubliez pas, écoutez l'émission « Je lis pour vous », soit en direct, soit en podcast sur le Radio Alliance Plus 103.2 FM et DAT Plus, les mardis et mercredis 21h30 ou en rediffusion les lundis et mardis à 6h. Ou encore www.radioallianceplus.fr pour les podcasts. N'oubliez pas d'écouter la fin de l'histoire. À bientôt, chers auditeurs.